Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Menu musical éclectique. Le rappeur Black M nous présentera au micro de Steven Bellery les chansons de son nouvel album qui sort demain. Nous écouterons également de larges extraits de Johan, le nouvel opus de Lady Gaga, et Charlotte Latour a rencontré le plus célèbre des ténors français, Roberto Alagna. On découvrira son nouveau disque. La bande dessinée RTL du mois d'octobre, Martha et Alan, raconte un premier amour de jeunesse, une histoire signée Emmanuel Guibert. Ce sera le coup de cœur de Monique Younes. Et puis nous jetterons un œil à nos programmes télé du soir. Isabelle Morini-Bosque nous donnera un avant-goût des 7 péchés capitaux, l'émission de notre ami Julien Courbet, ce soir sur C8.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Une musique et des chants venus de Polynésie pour commencer cette émission. Bonjour Stéphane Boutsock.
Yaorana à tous à Paris.
Très aimable. Vous êtes avec nous en direct de l'île de Moréa à Tahiti dans le Pacifique, à 18 000 km de Paris. C'est là que Disney vous a fait découvrir son dessin animé de fin d'année, Vaiana, qui sortira sur les écrans avec RTL le 30 novembre.
Ouais, film à l'image de ce que je vis ici depuis 2 jours. Voyage et dépaysement au cœur des traditions du peuple polynésien. Vaiana, c'est une splendeur animée qui raconte l'histoire d'une jeune fille dont le rêve est de prendre la mer pour retrouver le goût de l'aventure et l'exploration, goût de ses ancêtres. Elle va braver l'interdiction de son papa et s'embarquer pour une aventure épique qui va lui faire croiser aussi la route d'un demi-dieu facétieux, Maui, des dangers mortels et les beautés sauvages de mer nature.
Alors si je vous comprends bien, c'est à la fois un film de divertissement et un message sur l'environnement.
Oui, absolument. Ces préoccupations sont vraiment au cœur de la vie polynésienne, entre tradition et modernité. Jean-François Camilleri, le patron de Disney France et du label Disney Nature, est ici avec nous et il voit en Vaiana l'évolution dans les thématiques explorées par le studio, créateur, il faut le rappeler aussi ces dernières années, de La Reine des Neiges ou de Zootopie.
Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un film où il fallait se plonger dans la tradition, dans les traditions ou dans la culture d'un pays ou d'une région du monde, pour essayer de comprendre l'histoire, pour essayer de comprendre les cultures, et c'est retranscrit dans le film. Et ça, c'est génial parce que ça apporte des choses en plus. On va pas juste voir un divertissement. Quand nous, on est là aujourd'hui, eh ben, on apprend plein de choses sur la culture polynésienne qu'on connaît pas forcément. On a l'impression que la Polynésie, c'est des plages de sable blanc avec des palmiers, avec une eau transparente. Ben, il y a bien plus que ça derrière. Il y a des traditions exceptionnelles, il y a de la musique, il y a une manière de vivre, il y a un esprit qui s'appelle Mana ici, qui est très très fort et beaucoup plus fort que ce qu'on pourrait croire.
Également du voyage avec nous à Moréa, une ambassadrice de charme de la Polynésie, Mareva Galanter. Elle sera la voix de Sina, c'est la maman de Vaiana dans le film, aux côtés notamment d'Anthony Cavana et de la jeune cerise Calixte. Miss France 99, originaire de ce petit bout de France au bout du monde, Mareva, à la fois honorée et émue de la proposition de Disney.
Pour moi, venant d'ici, c'est tellement vrai. On n'est pas dans un conte de princesse, de château, de robes, de paillettes et tout. On suit la vie d'une héroïne, d'une petite fille qui grandit, qui devient adolescente et qui veut sauver son peuple. Et en fait, c'est ce qui se passe dans les îles. On grandit, on se forme et on prend notre force dans notre pays, dans notre île. On part pour voir autre chose, pour apprendre. Et on revient toujours avec quelque chose de différent pour grandir, pour faire grandir son peuple, son pays, apporter des connaissances et pour revenir encore plus riche, parce que le retour aux sources, c'est quelque chose de viscéral.
Voilà donc pour cet avant-goût de Vaiana, le très beau Disney de Noël avec un remarquable boulot graphique sur la nature, notamment l'eau. On sait que c'est très difficile à rendre en dessin animé. Vous verrez que dans le film, l'eau joue un rôle principal. C'est un conte naturaliste. Ça sort le 30 novembre avec RTL. On en reparlera évidemment.
Stéphane, deux questions de métropolitain, oui. Bien entendu. Quelle heure est-il à Moréa et quel temps fait-il ?
Alors, il est 12h de moins, ça veut dire que pour moi, il est 21h04 et on est donc mercredi soir.
Oui, hein, vous voyez,
je suis la veille de chez vous. Oui. Quant au temps, ça change à peu près toutes les 2 heures. Il a fait sublimement beau ce matin. On a pu se baigner dans le lagon avec des raies et des requins. C'était incroyable. Oui. Et puis après, il est tombé des sourds d'eau. Et ce soir, c'est un peu pluvieux. Mais demain, c'est Bora Bora. Donc, je vous raconterai ça lundi.
Écoutez, vous nous avez envoyé une photo absolument sublime. Merci, ça éclaire notre journée. Bonne fin de voyage.
Nana, c'est au revoir en polynésien.
Tous mes nanas. Dans un instant. Nous, on va balayer l'actualité musicale avec Steven Bellery, qui lui a mis un petit polo. Voilà.
Avec des vagues.
Oui, avec des vagues.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Nous allons maintenant balayer l'actualité musicale. Bonjour Steven Bellery.
Bonjour à tous.
Vous vous souvenez peut-être de ça ? Deux ans après son premier disque, écoulé à 800 000 exemplaires, le rappeur Black M publie demain Éternel Insatisfait.
Ouais, 19 chansons taillées pour le succès. Il y a des titres urbains et d'autres beaucoup plus dansants, produits et grand public, comme cette ancienne chanson. Exemple avec le morceau d'ouverture, Je suis chez moi.
La France est belle, même regarde haut comme la tour Eiffel, Mes parents m'ont pas mis au monde pour toucher les aides. J'ai vu que Marion m'a tweeté de quoi elle se mêle. Je sais qu'elle m'aime, je suis français. Ils veulent pas que Marion soit ma fiancée. Peut-être parce qu'ils me trouvent trop foncé. Laisse-moi juste l'inviter à danser. Je vais l'ambiancer, je suis français.
Ma maîtresse d'école m'a dit que j'étais chez moi, chante Black M dans ce titre. Une réponse en musique à la polémique de mai dernier. On s'en souvient, Black M devait chanter aux commémorations du centenaire de la bataille de Verdun après une levée de boucliers, notamment de l'extrême droite. La mairie avait annulé le concert. Le rappeur a écrit ce texte dans la foulée, Confidence.
J'ai eu envie d'écrire ce morceau qui s'appelle « Je suis chez moi » pour dire que je suis fier d'être français, qu'on a besoin d'être tous ensemble, qu'ensemble on est plus fort. Et... Non, aujourd'hui j'ai digéré, mais je ne vais pas oublier. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est très grave ce qui s'est passé. Je suis français, je vois pas pourquoi ils m'ont empêché. Mon grand-père a fait partie de la bataille. Ça aurait été vraiment une fierté d'aller chanter à ce concert.
Et ça vous a blessé, ça vous a meurtri ?
Ça m'a clairement blessé. Ouais. Quand il faut aller chercher les preuves pour dire oui, regardez, il a vraiment combattu, parce qu'à un moment donné, il s'amusait à dire que non, mais en réalité, il a jamais fait partie de la bataille, de cette bataille. On parle de mon grand-père. C'est quand même le père de ma mère qui est mort. Ça la touche, si ça la touche, ça me touche.
Je suis noir, je suis beurre, je suis jaune, je suis blanc, je suis un être humain comme toi. Je suis chez moi, fier d'être français d'origine guinéenne, fier d'être le fils de Monsieur Diallo, éternellement insatisfait. À suivre.
Alors Black M est une des stars des cours de récré. Comment vit-il ce nouveau statut ?
Alors, il se dit très surpris par son succès. Je veux populariser la musique urbaine. Le rap a beaucoup changé, raconte Black M, l'un des membres de Section d'Assaut, on le rappelle. Dans une de ses nouvelles chansons, il demande « Suis-je exemplaire ? Si je ne le suis pas, veuillez m'excuser. » Question à Black M, sa nouvelle célébrité lui impose-t-elle l'exemplarité ?
Je suis obligé, parce que c'est pas non plus le statut d'être populaire, c'est surtout le statut d'être écouté par beaucoup d'enfants. Et les enfants, ils retiennent beaucoup les choses. Quelque part, j'ai un rôle de grand frère par rapport à eux. Mais après, ça me fait pas peur, parce que de nature, j'ai un message positif. Je pense être un bon exemple de réussite. Je suis parti de rien, je suis parti d'un freestyle dans ma chambre. 2001-2002, ça fait un peu de temps quand même. Je commence à écrire des petits bouts de texte qui ne voulaient rien dire. Et aujourd'hui, je suis là avec vous.
J'ai rien vu passer. Bloqué dans le passé. Je me sens menacé par le temps. Cheveux blancs, j'ai rien vu passer.
Éternel insatisfait, le nouvel album de Black M sort demain. Il débutera une nouvelle tournée le 1er avril avec un passage programmé à Paris-Bercy le 2 décembre 2017. À ce qu'il paraît que dans les cours de récré, ça veut dire à ce qu'il paraît.
Ah, bah voilà, plein de choses. C'est déjà pour traduire. Autre sortie, Lady Gaga qui vient de publier son cinquième album, Steven.
Oui, intitulé Joan, prénom d'une de ses tantes décédées à l'âge de 19 ans. Ce nouveau disque est le plus épuré de la New-Yorkaise. Il y a 2 ans sur RTL, on s'en souvient, Lady Gaga expliquait qu'elle voulait enlever ses perruques. Ouais. C'est chose faite, la chanteuse de 30 ans se met à nu. Exemple avec Just Another Day.
And pick up unique style, I'll kick around.
Pas de son électro, encore moins de voix trafiquée. On est loin de la pop list de ses débuts. Lady Gaga abandonne l'excentrique pour l'électrique. Autre extrait, Ayo. Ayo. 14 morceaux pop-rock produits par l'anglais Mark Ronson, déroutant, brut, rugueux, ostentatoire, véritable démonstration vocale, ce nouvel album a le mérite d'avoir de l'âme et du relief. Avec Joan, Lady Gaga se réinvente, surprend encore 2 ans après son album de reprise jazz. Assurément la pop star la plus excitante à mon sens. Pas de concert de prévu pour le moment, mais ça devrait venir.
Il y a quelques instants dans le casque notre réalisateur Raphaël Nivois, c'est une véritable artiste, on l'entend vraiment dans
auteur,
cet album
compositeur, ouais. Interprète, instrumentiste, c'est une vraie artiste.
Et bon, on va passer à une autre lady maintenant, en l'occurrence Isabelle Morini-Boss, pour nos résultats d'audience. C'est avec Médiamétrie, c'était hier soir à la télévision.
Restons sur cette bonne impression. Audience très éclatée. Joséphine Ange Gardien, inoxydable, et bien, est toujours en tête, nettement. 4 530 000 téléspectateurs et 19% du public sur la une. Deuxième position, le meilleur pâtissier sur M6 qui décidément fait une très belle rentrée. 3 800 000 téléspectateurs et là aussi 18% du public sur la 6.
Sur les gâteaux.
Oui, c'est vous faites ça ?
Non, je les ai regardés hier soir.
Ah bon, oui. Ben faites-moi. Et en troisième position, Nina qui termine avec 3 500 000 téléspectateurs sur la 2. C'est pas mal du tout. Le foot rassemble moins d'1 800 000 téléspectateurs sur la 3. Et côté TNT, c'est France 4 avec l'âge de glace 3 qui est nettement en tête. 1 700 000 téléspectateurs. Et on reparle un petit peu de la grève à iTélé, engagée par les journalistes de la chaîne, on le rappelle, pour obtenir un vrai projet éditorial et la suppression de l'émission de Jean-Marc Morandini. Je vous disais hier que la part d'audience était passée de 0,8% avant la grève à 0,5% aujourd'hui, avec chaque jour un manque à gagner publicitaire de 120 000 euros. Or, hier, on apprenait que LCI est désormais devant iTélé avec 0,6% de part d'audience. Et ça, il faut dire honnêtement que c'est grâce à la grève et à vous, Yves Calvi. Notez que la rédaction de iTélé affirme vouloir lever la grève le temps d'assurer le second débat de la primaire de la droite prévue sur iTélé et BFM le 3 novembre. Le point dans la matinée, de nouveau un point sur le i de iTélé.
On passe maintenant à notre soirée télévisée et on commence par Profilage qui a bien démarré jeudi dernier sur TF1.
Oui, Profilage reste la série la plus regardée en France avec 6 700 000 fidèles, un minimum de 800 000 de plus avec la télévision de rattrapage. Reste franchement que le public, il m'en a parlé, n'a pas tout compris à la programmation. Écoutez l'acteur principal Philippe Basse, formidable, quand je lui avais demandé de me donner la couleur de cette 7e saison et de me faire un résumé de la fin de la 6e.
Nous avons été dotés d'un nouvel effectif, de l'émergence d'un talent qu'on avait déjà vu au cours de quelques saisons, et ça va être quelque chose d'assez ambitieux. À revenir sur la saison d'avant, c'est un peu compliqué pour moi. Disons qu'on nous a laissé dans un moment plein de suspense, mais avec... Et je suis tellement concentré sur la nouvelle que les rediffusions parleront mieux pour moi.
Vous en êtes bien tiré, là, blablabla. Un petit coup d'escamotage. Bon, ben, je vais expliquer.
Donc il n'a pas compris en sa fait, série lui-même.
Mais personne. En fait, le scoop, c'est le départ de la rousse Chloé dans un épisode en 2 parties. TF1 hésitait entre le mettre à la fin de la saison 6 ou au début de la saison 7, d'où un espèce de brouillage de communication. Tu parles si on s'en fiche. Sachez simplement que le profilage sans Chloé, ça démarrera jeudi prochain, sa remplaçante Adèle étant apparue dès la saison 4. Et donc, ça se profile bien. Ne cherchons pas plus loin.
Alors, la nouveauté télé du jour, on la doit à notre ami Julien Courbet qui propose ce soir sur C8 les 7 péchés capitaux. Ça me dit quelque chose.
Ah, donc, à vous aussi. Hein. Oui, ouais. Eh bien, c'est en fait le titre d'une émission que le même Julien Courbet proposait naguère avec succès sur TF1. Alors Julien Courbet, va falloir en dire plus, c'est une ressucée si j'ose dire, ces nouveaux péchés capitaux, outre le côté biblique évidemment.
Oui, c'est un vieux copain, moi, un pape, hein, 600 ans après Jésus-Christ, qui m'a dit « J'ai ce concept, tu ne peux pas le réutiliser ?» J'ai dit « Fais voir !» Alors, si vous faites allusion au concept de TF1, ça n'a strictement rien à voir. Sur TF1, c'était de l'arnaque, ni plus ni moins. C'était 7 arnaques en 7 péchés capitaux. Là, on a trouvé des illuminés comme on les aime, fiers de vivre dans le péché. Dans chaque péché, il va y avoir son pécheur, son portrait. Et derrière chaque péché également, il y aura le journal des pécheurs du monde entier. Donc, on va être dans un monde qui va secouer un petit peu. Hein, mais il faut accepter d'être choqué puisqu'on est dans le monde du péché. Donc. Mais surtout, on va beaucoup rire.
Eh oui, vous jurez que ce ne sont pas des illuminés qui s'inventent un personnage juste pour la télé ?
c'est des vrais portraits. Effectivement, c'est des gens qui sont comme ça et qu'on suit depuis longtemps et qui se sont pas mis à être comme ça 15 jours avant. Ils l'ont toujours été. Il y a la dernière partie de l'émission qui peut peut-être vous intéresser et qui, moi, m'a beaucoup intéressé, c'est bien sûr la luxure. Parce que là aussi, quitte à faire une émission sur les péchés, ne nous fixons pas trop de limites parce que sinon, ça donne une version un peu édulcorée qui a pas de sens. Ça sera en fin de soirée. On préviendra le public le plus jeune. S'il le faut, on changera de signalétique. On a rencontré des gens dont le truc pratique l'échangisme autour d'un barbecue. Moi, ça m'a beaucoup touché puisque le barbecue, vous savez, c'est quelque chose qui a longtemps marqué mon arrivée sur C8. Et donc, vous allez assister au premier barbecue échangiste. Il y a des saucisses crues et d'autres qui le sont moins. Enfin, vous verrez tout ça.
Je n'ose même pas dire. Sont invités, oui, le barbecue, c'est une émission qu'il avait ratée sur C8. Sont invités Stéphane Plaza, Fauvoto, Clara Morgan, Gilles Amal de Nos Chers Voisins. Autre chose à ajouter en conclusion, je n'ai pas dit pour votre défense.
C'est en direct, ça c'est super important, parce qu'une émission sur les péchés en direct, on se dit qu'il peut arriver plein de choses aussi. Quoi.
Rappelez-les-moi les sept péchés capitaux.
Il y en a toujours un que j'oublie. Donc. Avarice, paresse, orgueil, gourmandise, luxure, envie...
Colère.
Et colère, voilà. Bien joué.
Bon, eh bien, je crois qu'on s'est tout dit. La suite sur C8 ce soir.
Et puis on retrouve Julien dans 10 minutes.
Par exemple, tiens, je l'oubliais là.
Bah, bien entendu. Dans un instant, on retrouve Monique Younes, et avec une bande dessinée qualifiée d'exceptionnelle.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvi.
Monique Younes,
oui.
On ne va pas s'en cacher, non. La bande dessinée RTL d'octobre est un album d'une qualité exceptionnelle. Il est signé d'Emmanuel Guibert. Son titre est à la fois sobre et énigmatique, Martha et Alan. Il est publié aux éditions L'Association. Alors avant d'en découvrir l'histoire, la première chose qu'on remarque, c'est que le dessin est magnifique.
Mais oui, dessin magnifique pour une histoire universelle, celle de deux enfants de 5 ans dans la Californie des années 30 qui se rencontrent dans la cour d'école, s'aiment, se séparent avant de se retrouver la cinquantaine passée. Martha et Alan est l'histoire vraie d'Alan Ingram Cope, un GI resté en France après le débarquement et que l'auteur Emmanuel Guibert a rencontré à l'île de Ré en 1995. Ils sont devenus amis et le septuagénaire Alan a raconté sa vie au trentenaire Emmanuel qui depuis 2001 nous en restitue la grandeur et la modestie, album après album.
C'est une petite histoire d'amour, donc très virulente, comme le sont les histoires d'amour des cours de récréation à l'âge le plus tendre, à l'âge, à vrai dire, où on fait connaissance avec les autres. Parler de ça, c'est parler de quelque chose de très précieux et de très puissant dans la vie de tout un chacun. Quand même, la découverte du sentiment amoureux et de l'attraction qu'on a pour un autre être, c'est pas rien.
Ne vous attendez pas dans cet album à du spectaculaire hollywoodien. Non. L'action est celle du naturel et les rebondissements ne sont que les échos des hasards de la vie. Dans Martha et Alan, c'est la psychologie des personnages qui tient lieu d'intrigues et des péripéties. On se balade dans la nature avec Martha et Alan. On ressent la joie que ces deux amoureux éprouvent à être simplement ensemble. Guibert raconte l'innocence à grands coups de fresques pleines de détails et d'atmosphère. Son dessin est vraiment virtuose. Il nous fait escalader les arbres en compagnie de ses deux gamins. Et l'on devine ce qu'ils ressentent devant l'horizon qui s'offre à eux. Cette image fait la couverture de l'album.
Je suis content de mettre des arbres dans chacun des livres que je lui consacre parce que il aimait dire, lui, l'homme n'est qu'un épisode dans l'histoire de la végétation. Donc, on voudrait que cette magie passe. On essaye de mettre les moyens pour ça, faire circuler l'air dans les feuillages, etc., de manière à ce que les gens puissent y croire, avoir de là-haut le genre de vue qu'ils avaient, se tâcher les mains à la résine, enfin, toutes sortes de choses qui sont là aussi de l'ordre de notre patrimoine à tous.
Alors, il a une technique particulière de dessin, votre Emmanuel Guibert.
Oui, bien à lui. Il travaille ici sur un film plastique transparent qu'on appelle le rhodoïde. Voilà, avec de la craie et des encres. Et c'est une technique qu'il utilise pour la première fois et qu'il a, dit-il, complètement libéré.
Donc, ce sont des livres où, généralement, j'inaugure des techniques que je ne connais pas moi-même. Et à mesure que le livre avance, je découvre petit à petit des modalités d'usage de ces matériaux singuliers. Quelques craies, quelques encres, qui parfois se contrarient, n'ont pas été conçues pour être ensemble, mais j'essaie de trouver une façon de les marier. Le support rhodoïde, donc transparent, permet par exemple de travailler recto verso, puisqu'on voit, quand on retourne la feuille, ce qui est de l'autre côté. Et on peut faire par exemple le trait d'un côté, la couleur de l'autre, ou mélanger un peu les deux.
Emmanuel Guibert, qui n'a pas encore fini de nous conter la vie d'Alan Graham Cope, il y aura consacré une partie de sa vie. Alors un artiste qui consacre sa vie à celle d'un autre, c'est déjà assez rare, déjà suffisamment merveilleux. Alors quand l'artiste en question a ce talent, c'est une aubaine. Voilà pourquoi nous sommes vraiment particulièrement fiers à RTL de voir l'album Martha et Alan, choisi comme bande dessinée RTL d'octobre. Ce beau regard sur l'Amérique passe largement au-dessus des caricatures à la Donald Trump, l'album d'Emmanuel Guibert. Pierre, Martha et Alan est édité par l'association.
Merci Monique Younes. Musique classique pour finir avec vous Charlotte Latour. Bonjour.
Bonjour.
Le ténor français le plus célèbre, Roberto Alagna, sort son nouvel album demain, un album qui porte le nom de sa fille de 2 ans et demi, Malena.
Et oui, toute cette histoire de famille chez les Alagna. Malena est la fille qu'il a eue avec la soprano polonaise Alexandra Kurjak et il lui dédie cet album ainsi que la chanson d'ouverture.
En fait, mon frère m'avait envoyé une chanson d'amour. Et quand j'ai entendu la musique, je me suis dit, tiens, mais c'est marrant, moi ça m'inspire d'autres paroles, une autre histoire. Ah bon, il m'a dit que quoi ? Bah, je dis, ça m'inspire une naissance, l'enfant, et j'étais avec ma femme, et elle était enceinte, et je touchais son ventre, comme ça. Et puis j'ai écrit les paroles, ensuite je l'ai envoyé, il a peaufiné, on a peaufiné ensemble, la musique, les paroles, et c'est devenu Malena.
Quando penso a te, e sogno ancora, papà. Quando stai con mamma abbracciato.
Alors je vous disais que tout est histoire de famille hein, dans cette tribu-là. Alors il y a Marinelle, la sœur et bras droit de Roberto, et ses frères Federico et David, compositeurs tous les deux. Eux, ils ont écrit 7 chansons sur ce nouvel opus. Et les autres chansons sont des airs napolitains et siciliens qui se transmettent et que Roberto connaît depuis l'enfance.
Moi je ne sais pas ce que je suis. J'ai jamais été ni sicilien ni français totalement. Aujourd'hui bien sûr je me sens français parce que j'ai vécu ici en France, je suis né en France, mais pendant longtemps, j'étais ni italien, ni sicilien, ni français. J'étais un déraciné, j'étais un enfant issu de l'immigration. Voilà, donc oui, ça bien sûr, ça m'a accompagné toute ma vie. Il ne faut pas oublier que pour nous, on était dans un pays étranger. Et c'était le seul contact qu'on avait avec la Sicile, c'était de chanter entre nous les chansons et de faire une sorte de fête entre nous pour retrouver les saveurs et les senteurs de cette île. C'était ça qui nous faisait voyager.
Roberto Alagna, on s'en souvient, avait signé l'album Sicilien en 2008, album qui a très bien marché d'ailleurs. Eh bien, il n'y a pas de redite avec celui-ci, d'autant que le chanteur s'emploie à interpréter d'une façon très personnelle ces airs qu'on connaît parfois très bien, en laissant de côté la pureté des airs d'opéra.
Par exemple, dans la variété, vous vous souvenez, même les chanteurs italiens qui chantent « La chalama » avec des voix comme ça, cassées complètement, et ça donne un grain sensuel, ça devient touchant. Alors qu'à l'opéra, on recherche toujours la pureté. Comme dans les lignes d'un Botticelli ou de toute cette école de la Renaissance. Par exemple, dans ce disque, il y a des moments où il y a un petit graillon dans la voix, un petit truc. C'est parce que c'est important, parce que ça va donner une petite fragilité, une faiblesse.
Le graillon, c'est ça ?
Le graillon, la salissure. Vous voyez, la matière, j'appelle ça la matière.
Sole mio, pas une banale reprise finalement.
Et on le redécouvre cet air-là.
Oui, vraiment. Et il faut dire que Roberto Alagna a enregistré cet album avec un ami proche, le talentueux musicien et arrangeur Yvan Cassar. Il a travaillé avec Nougaro, Goldman, Dutronc, Mylène Farmer et il a aussi signé les nouveaux jingles d'RTL. En tout cas, c'est le 5e album qu'ils font ensemble. Ils ont travaillé dessus sans arrêt d'avril à juillet dernier, s'appelant même au milieu de la nuit entre Londres et Paris pour modifier les détails. L'orchestration est d'ailleurs extrêmement soignée, les arrangements super. Yvan Cassar dit de ce répertoire qu'il faut qu'il sente la terre, qu'il soit authentique. Eh bien, c'est réussi. Exemple avec le son d'un vieux gramophone pour cet air napolitain nostalgique. La voix pleine de soleil, brillante d'Alagna, tout en émotion. Sur cet album, on entend avec sincérité tantôt la joie, l'allégresse, tantôt les larmes. Le chanteur se fait presque comédien sur chacun de ses airs. Lui qui a commencé sur des scènes de cabaret et a aujourd'hui plus de 60 rôles d'opéra à son actif. Alterner opéra et répertoire populaire lui va toujours aussi bien. En ce moment à Munich, il sera à Paris le 9 janvier prochain. Il donnera un récital avec sa femme au Théâtre des Champs-Élysées pour plusieurs airs d'opéra.
On est fiers de lui. Vous revenez quand vous voulez avec votre ami Alagna dans cette émission. Dans un instant, on retrouve Julien Courbet. Ouais. 9h32, on vous laisse entre mains de bonne compagnie, celle de Julien Courbet.
Je n'ai qu'une chose à vous dire. Félicitations, bravo. Et on écoutera encore une fois la matinale info d'RTL. Je vous souhaite une belle journée.